Bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français, qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, aussi par Internet ou encore grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Alors, si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis la France, eh bien, vous composez le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, vous ajoutez le 00 33, puis vous faites le 1 80 14 44 77. Et puis, si vous voulez nous écouter depuis les États-Unis, eh bien, vous composez le 1 712 432 9 978. Aujourd'hui, nous vous proposons dans notre programme votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lindsay. Ensuite, nous retrouverons la chronique Un air de famille. Et pour finir, un temps de réflexion avec Pierre Péchou pour Vers d'autres cieux. Mais tout de suite, pour commencer, voici Sentez-vous bien. Docteur Jean Lindsay, bienvenue au micro de Sentez-vous bien. Merci de nous retrouver une nouvelle fois.
Bonjour Oscar.
Alors, je rappelle que vous êtes directeur d'une thèse sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau. Et vous venez nous parler régulièrement de découvertes. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la caféine. Alors, de quoi s'agit-il, docteur Jean Lindsay?
Eh bien, ce que je vais vous raconter aujourd'hui va montrer à quel point la biologie, la médecine sont précises. Et à quel point on peut comprendre beaucoup de choses de notre fonctionnement grâce à ce que la science est en train de nous donner.
Et ça, c'est grâce à la caféine, donc.
Bah, là, aujourd'hui, on va prendre la caféine comme exemple. C'est un bon exemple de ce qu'on sait sur la caféine. Alors, ça se trouve dans un livre remarquable qui s'appelle « La dopamine dans tous ses états », qui a été écrit par le professeur Jean Constantin. « La dopamine dans tous ses états », tout est passionnant là-dedans, et nous allons parler seulement d'un tout petit passage de ce livre qui concerne la caféine.
Et alors, que nous dit le professeur Jean Constantin sur la caféine?
Ben, vous savez qu'il y a des gens qui aiment le café et d'autres qui ne l'aiment pas.
Oui.
Eh ben, on comprend pourquoi.
Ah, on sait pourquoi certains l'aiment et d'autres non.
Eh oui. Voilà.
Et c'est quoi la raison alors?
Eh ben, c'est voilà. C'est que quand la caféine arrive au foie, il y a une fraction plus ou moins importante qui va être amputée d'un groupe méthyle, un CH3. Elle va être déméthylée, la caféine. Et cette déméthylation va donner une naissance à une molécule qui s'appelle la paraxanthine. Alors, la paraxanthine est différente de la caféine. La caféine est anxiogène et la paraxanthine est anxiolytique. On a observé que l'appétence ou l'aversion, c'est-à-dire soit le fait qu'on aime la caféine ou qu'on ne l'aime pas, est lié à l'activité du cytochrome 1A2. Alors, il faut que nos auditeurs n'aient pas peur. Hein.
C'est un peu pointu, là. Hein.
Non, pas du tout. On a tous des cytochromes. Vous regardez sur Internet, cytochrome, c'est jamais qu'une enzyme, quoi. Voilà. Bon, il y a pour de quoi se rouler par terre, hein, si j'ose dire. C'est pas compliqué. Au service de cette transformation de la caféine en paraxanthine. Soit il y a beaucoup de cette enzyme qui fait la déméthylation, soit il n'y a pas beaucoup de cette enzyme, et à ce moment-là, la caféine reste intacte. Si la caféine reste intacte, on aura affaire à quelqu'un qui n'aimera pas le café, parce que c'est anxiogène, ça, il va se sentir pas bien, il va
être
anxieux,
nerveux. C'est-à-dire que ça provoque une réaction en lui qu'il n'apprécie pas du tout.
Voilà, il va établir, et ça c'est en automatique dans le cerveau, il a même pas, il ne se le dit pas. C'est son corps qui le lui dit en direct, en dehors de la parole. Il essaye une fois, ça le rend anxieux, il est pas bien, il dit j'aime pas le café, puis c'est tout.
Et ça me réussit pas, quoi.
Ça me réussit pas, voilà, c'est tout. Et à contrario, si il a de cette enzyme, la cytochrome, ça va lui provoquer une anxiolyse. C'est-à-dire que ça va lever l'anxiété, il va se sentir détendu, il va se sentir bien, donc il va aimer le café.
Et donc, boire du café quand on le supporte mal, c'est mauvais pour la santé ou ça ne change rien?
Alors que vous le supportiez ou pas, de toute façon, il y a une dose maximum de café qu'il ne faut pas dépasser, au-delà de laquelle on a ce qu'on appelle du caféinisme, c'est-à-dire tout un tas de symptômes, nervosité, mauvais sommeil, et cette dose est fixée à 1 gramme par jour.
Ça représente combien de café par jour?
Ça représente une dizaine de petits cafés, quoi. Ça, on l'atteint très vite dans le monde moderne, parce qu'il y a de la caféine non seulement dans le café, mais il y en a dans le thé, il y en a dans le chocolat, il y en a dans toutes les boissons sucrées...
Énergisantes
ou pas, ce qui fait que les gens peuvent rapidement arriver... au seuil, sans compter qu'il y a la variabilité individuelle. Hein. Oui. Donc il y a énormément de gens qui sont au-dessus du seuil. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que les fumeurs de cigarettes sont souvent des grands consommateurs de caféine.
Ça va de pair souvent?
Ah oui, et le fait, on comprend pourquoi, là encore. Parce que le fait de fumer induit l'enzyme de la transformation de la caféine en paraxanthine. C'est-à-dire que quand vous fumez, vous allez fabriquer plus de... Quand vous prenez votre café, vous allez prendre... Ça va donner plus de paraxanthine, c'est-à-dire un anxiolytique. Donc vous allez vous sentir bien. Et de surcroît, la caféine, pour faire simple, c'est un peu plus compliqué, mais on peut retenir qu'en gros, la caféine détruit la nicotine. Ce qui fait que quand vous prenez du café, pour que le cerveau ait sa dose de nicotine...
Il faut fumer plus.
Il faut fumer plus.
Ah,
ce
oui.
qui fait qu'en baissant simplement son apport de caféine... Je rappelle, boissons énergisantes, Coca, Pepsi, chocolat,
thé, tabac.
Pour les fumeurs, le simple fait de baisser de façon substantielle sa consommation de caféine fait baisser mécaniquement la consommation de tabac. On a déjà fait un pas vers le sevrage.
Donc on comprend vraiment pourquoi tout ça va de pair maintenant.
Voilà.
Café et cigarette.
Voilà. On comprend très bien tout ça. Alors, si vous voulez, c'est un bon exemple de ce qu'on sait. Et qui, malheureusement, ne circule pas assez dans le corps social, parce que ce type d'explication, si elle était suffisamment diffusée, contribuerait puissamment à faire baisser la consommation de tabac et aussi éviterait les caféinismes qui ne sont pas si rares que ça dans la société. Hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont des sommeils mauvais, qui ont des états de nervosité parce qu'ils prennent trop de caféine. C'est très banal et il n'y a aucune prévention là-dessus. Hein. Personne n'en parle, ou très peu, quoi. Et ce qui est fantastique, ce que je trouve formidable, c'est que on a tous les moyens, tout est expliqué, on peut expliquer très simplement, de façon rationnelle, tout ça. Et ça c'est vraiment un espoir pour l'humanité de se comprendre de mieux en mieux. Et avec cette caféine, on a un bel exemple de ce qu'on sait aujourd'hui. Alors je recommande bien sûr la lecture de ce livre. La dopamine dans tous ses états, vous découvrirez beaucoup d'autres choses passionnantes sur vous-même. Livre du professeur Jean Constantin.
Voilà, merci docteur Jean Lindsay, c'était Sentez-vous bien et on se retrouve bientôt pour une prochaine chronique sur la santé. Merci, au revoir.
Au revoir Oscar.
Vous aussi, votre santé vous intéresse ? Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Sentez-vous bien que vous retrouverez dès demain avec le docteur Jean-Cyan Breuil. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien il vous suffit de nous adresser un mail à france@awr.org. Ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100 77 193 d'Amarie-Lélis, Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre chronique Un air de famille et nous terminerons avec Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux. Jean-Pierre Lachise, bienvenue au micro de Un Air de Famille.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes éducateur, formé à l'accompagnement des personnes et des couples. Vous êtes aussi pasteur et vous nous proposez donc de nous arrêter sur certains passages de la Bible et de revoir notre question de Un Air de Famille au regard de la Bible.
Oui, le premier livre de la Bible que nous abordons, là, c'est un livre plein de pédagogie pour l'individu, pour le couple, pour la famille.
Donc il s'agit du livre de la Genèse.
Genèse.
Et aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur le passage qui se trouve au chapitre 2, au verset 24.
Oui. Alors il est dit, je lis, si vous voulez bien,
oui.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils ne feront qu'une seule chair.
C'est un peu surprenant comme,
oui.
comme texte, puisque quand on relit le verset 23, on se demande qu'est-ce que vient faire ce commentaire.
Absolument.
Pour le premier homme et la première femme. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas de parents à ce stade-là.
Non, ils n'ont pas de parents, voilà. Et là, on comprend que la Genèse est un livre de pédagogie qui nous enseigne des choses pour nous-mêmes. Qu'est-ce que je peux apprendre sur moi-même dans ce passage-là? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Donc, pour s'attacher, il faut quitter. Pour s'attacher à sa femme, il faut quitter. Alors, ça veut dire quoi, quitter? Ben, je dirais que c'est très difficile pour un homme, par exemple, de quitter sa mère. La mère, elle donne la vie. La mère, elle a tout le rôle d'introduire le père aussi, de dire, voilà, de donner une bonne image du père. Donc, elle va donner les fondamentaux de la vie. Donc, comment on peut se couper? Comment on peut se déraciner d'une mère qui donne la vie? C'est très dur. On veut lui plaire. On veut rester accroché à elle. Il y en a, ils sont dans la fusion avec leur mère. Ils n'ont pas quitté la fusion avec leur mère. Certains disent, ah, la soupe de ma mère, quand même, quand ils sont chez eux, mariés. ils regrettent la bonne soupe de leur mère. Alors, voilà, c'était pas forcément la bonne.
Ça fait toujours plaisir à la femme.
Mais c'est ça. Donc, quitter sa mère, c'est très dur à quitter son père. C'est-à-dire que les parents nous ont donné un modèle. On a vu l'amour à travers eux. On a peut-être vu même Dieu, l'amour de Dieu à travers eux. C'est possible aussi. Mais des fois, on a vu beaucoup de déficiences. On a un modèle d'amour entre le père et la mère que voilà, on est tous passés par là, d'avoir vu nos parents, la manière dont ils s'aimaient. Et quitter, ça veut dire ce modèle-là, c'est leur modèle à eux. Chaque modèle conjugal, chaque modèle de relation entre un homme et une femme est unique et une création unique. Donc quitter, c'est-à-dire ce que j'ai vu de mon père et ma mère, c'est pas forcément ce que je vais reproduire chez moi. C'est déjà la première leçon.
Est-ce que c'est si simple?
C'est très dur. Parce que tout ce dont on a peur, c'est ce qu'on reproduit. Hein. C'est ce que dit Job. Tout ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce dont j'ai eu peur chez moi, ce qui m'a manqué, je risque de le reproduire dans ma famille. Mais c'est important que ça soit dit là pour nous apprendre quelque chose. Mon épouse, eh ben, elle n'a pas la même culture que moi. Voilà, elle n'a pas la même ambiance familiale que moi. Et donc, je vais devoir m'adapter à ce qu'elle a vécu. Et c'est tout ça, quitter son père et sa mère, c'est je vais m'adapter pour créer une nouvelle cellule de couple. Un nouveau genre de couple. Une nouvelle manière d'aimer. Et je vais devoir m'adapter à elle. Sans ça, je vais venir avec mes schémas et je vais reproduire les schémas que j'ai connus avec mes parents. C'est ça, quitter. Alors, c'est toute l'ambivalence. Je dois quitter, mais je dois aimer mes parents aussi.
Comment? Oui, c'est pas faire une croix définitive sur notre passé non plus.
Voilà. Alors, je dois quitter pour faire une seule chair. C'est très beau le mot une seule chair parce que dans l'hébreu, le mot chair, c'est le mot bazar. C'est le mot qui signifie, en fait, dans la racine, bonne nouvelle. Créer une bonne nouvelle. Je vais quitter mon père et ma mère pour faire une bonne nouvelle avec ma femme. Alors, et là, c'est déjà une belle image du couple. Un couple qui s'aime, qui a réussi à lâcher les déficiences de ce qu'il a vu, ou les manques ou les carences de ce qu'il a vu, et bien, il va pouvoir s'attacher et créer une nouvelle cellule qui va être une image de Dieu, parce que le couple est à l'image de Dieu, une image de Dieu sur la terre. Autrement dit, un homme et une femme qui s'aiment, qui sont unis, hein, ils font une seule chair, c'est pas la fusion, c'est une unité, qu'ils sont unis, et bien ils donnent sur la terre la bonne nouvelle d'un Dieu d'amour, sans prononcer le nom de Dieu, simplement par leur manière d'être unis.
Là, on se retrouve devant le premier couple dans ce passage.
Oui.
Et ce premier couple a vocation à annoncer une bonne nouvelle.
Oui, à travers leur unité. Et si on lit la suite, on va voir tout de suite que dès qu'ils vont se séparer de la racine d'amour qu'est Dieu, ils vont se diviser.
Et c'est ce qu'on verra dans notre prochaine chronique.
Si vous le voulez bien, merci.
Merci Jean-Pierre Lachise. On se retrouve donc une prochaine fois pour à nouveau Un Air de Famille.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et avec toute l'équipe. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est Pierre Péchou qui nous rejoint dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique « Vers d'autres cieux ». Pierre Péchou, bienvenue à ce micro.
Bonjour Oscar.
Merci de nous rejoindre régulièrement pour partager vos réflexions avec nous. Je rappelle que vous êtes pasteur et conférencier. Aujourd'hui, donc, vous avez sélectionné un texte qui se trouve dans la Bible. C'est le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, versets 1 à 7. Et il y a question du prophète Élisée qui secourt une veuve. Alors, comment est-ce que le prophète Élisée intervient dans cette histoire ?
Alors, le prophète Élisée va intervenir parce que cette femme fait une démarche auprès de lui. Triste situation, je vous lis le début du texte. Elle parle au prophète, il lui dit « Mon mari, ton serviteur, est mort, et tu sais qu'il craignait le Seigneur. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » À l'époque, pas de système social pour aider les personnes en difficulté. Cette femme se retrouve veuve, elle a deux enfants, mais comme son mari avait des dettes, eh bien, les enfants vont être serviteurs des créanciers jusqu'à remboursement de la dette.
C'était de cette manière-là qu'on payait sa dette.
Oui, mais faut-il encore pour la femme pouvoir subvenir à ses besoins en attendant le retour des enfants ? Donc elle est en danger de mort, en fait. J'aimerais, Oscar, que nous puissions nous mettre à la place d'Élisée un moment, dans la situation, en fait, où quelqu'un vient nous voir parce qu'il a besoin d'une aide importante, parce que sa situation est très difficile. Je pense que notre réflexe à chacun d'entre nous serait de demander à la personne ce dont elle aurait besoin.
Oui, en général, c'est de cette manière-là qu'on pratique.
Et c'est tout à fait louable.
Oui.
Nous prenons conscience de la difficulté et nous voulons aider la personne. Donc, la question serait de quoi avez-vous besoin, de quoi as-tu besoin ? Et là, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que la question d'Élisée n'est pas « qu'est-ce qui te manque ? Qu'est-ce que je vais pouvoir, moi, te donner ?» Mais la question d'Élisée est la suivante « qu'est-ce que tu as ?»
Effectivement, c'est surprenant.
C'est surprenant et ça va nous faire découvrir une facette de Dieu très très intéressante. Élisée va faire comprendre à cette femme que malgré sa détresse, elle a quelque chose. Et avec ce qu'elle a, Dieu va intervenir sur ce qu'elle a. Ce texte va nous présenter un Dieu qui est le Dieu de la surabondance.
Pierre Péchou, qu'est-ce qu'elle a cette femme à sa disposition ?
La femme répond à Élisée : « Moi, ta servante, je n'ai rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » C'est de l'huile de parfum qui a donc une certaine valeur, mais dont la vente ne permettrait pas de subvenir à ses besoins et de rembourser ses dettes. Alors je parlais du Dieu de la surabondance, et à partir de ce petit peu qui appartient à la femme, un miracle va se produire, et Élisée va demander à la femme d'aller chercher des vases chez ses voisins, et à la fin du miracle, tous les vases se trouvent remplis d'huile.
Et c'est la solution que Élisée a trouvée pour que cette femme puisse payer sa dette ?
Je vais vous rendre attentif à la fin de l'histoire. La femme retrouve Élisée et lui raconte le miracle. Elle lui apprend qu'elle a maintenant à sa disposition beaucoup d'huile de parfum. Et Élisée lui dit « Va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Je voulais vous rendre attentif à la fin de cette histoire parce que si nous ne connaissions pas le miracle, si nous ne prenons que le début et la fin de l'histoire. Je rappelle donc qu'au début, cette femme vient voir Élisée en grande détresse pour lui dire « Voilà, je vais peut-être mourir parce que mes fils vont être réduits en servitude, mon mari est mort. » Imaginez si la réponse à cette situation d'Élisée était la suivante « Va vendre l'huile que tu as et paie ta dette et tu vivras. » Eh bien, elle ne pourrait pas vivre. Donc, il y a le miracle qui s'est produit. Et la fin de l'histoire prend une toute autre dimension. C'est Dieu qui a fait un miracle. Dieu est le Dieu de la surabondance. Et maintenant, il y a de l'huile à vendre. Il faut payer sa dette, mais c'est le miracle de Dieu qui va permettre d'avoir suffisamment d'huile et d'argent pour payer la dette. Voilà la bonne nouvelle. À partir de ce que je suis, à partir de ce que j'ai, Dieu va me bénir. Dieu va être dans ma vie le Dieu de la surabondance. Et cette bénédiction de Dieu va me permettre de me rétablir dans une bonne situation, de payer ma dette. Le texte finit ainsi, « Paie ta dette et tu vivras ». C'est une invitation pour chacun d'entre nous à accepter de recevoir de Dieu, à payer ce qui doit l'être et à vivre pleinement.
au nom de l'amour.
Est-ce un nouveau film ?
Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC.
IEBC ?
Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours gratuits.
Tu as raison, au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org.
Notre émission est maintenant terminée. Vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'était La Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain. Je vous souhaite une très bonne continuation à tous. Que Dieu vous bénisse. À demain. Thank you.